pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est la sixième du Vent dans les pages, émission consacrée au coup de cœur de nos lecteurs et lectrices. Donc aujourd'hui, je suis aux libertés. Oui, c'est pas Fluxus, on est aux libertés, on est revenu là, retour aux sources, on est entouré de bouquins, ça c'est le décor parfait pour parler de notre passion. Donc je suis en compagnie de Catherine et de François.
Bonjour.
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 Ça va bien?
Oh, très bien.
Ouais, bon, malgré ce froid, vous êtes venu, vous êtes courageux,
au contraire,
fidèle, rien vous arrête.
Ça stimule les neurones, c'est impeccable.
Alors, quelques surprises, donc, encore une fois, pour cette émission. Catherine, on va commencer par toi. Alors, on va explorer une partie du corps humain.
Mmh. Bah, même si on n'en parle pas trop, parce qu'à première vue, ce n'est pas un sujet, on est un peu bégueule, qui nous intéresse. Mmh. Il peut nous occuper tous les jours.
Grâce à ce bouquin, on en parle.
Ouais. Donc, voilà, j'ai quitté la littérature, fini les grands espaces, tout ça. Et là, je me suis intéressée à un grand voyage, mais à l'intérieur du corps. Grâce au livre de Julia Anders, avec un joli prénom comme ça, elle est allemande. Mmh. Elle est médecin.
Ce n'est pas une actrice américaine.
Du tout. Et elle s'est lancée, en fait, elle s'est intéressée à un organisme qui, bon, qui n'est pas le plus sexy pour nous, qui est l'intestin. Mmh. Alors, c'est vrai que dans les soirées mondaines, je ne sais pas si c'est le sujet principal.
Peut-être pas.
Et en fait, elle s'est lancée dans l'écriture de ce livre qui nous raconte un peu pourquoi cet organe est si important pour nous, en quoi il a un rôle vraiment central. Mais elle l'a fait avec des connaissances, c'est-à-dire qu'elle nous apprend énormément de choses, mais avec beaucoup d'humour. C'est très drôle et c'est sérieux, mais à la fois très accessible. Donc, je crois que c'est à conseiller sans modération à tous âges, qu'on soit jeune ou moins jeune. Voilà. Donc, le livre s'appelle « Le charme discret de l'intestin » avec un sous-titre « Tout sur un organe mal aimé ». Et donc l'auteur Julia Anders, ça a été publié chez Actes Sud, donc traduit de l'allemand. Puis en plus, ça vous pouvez pas le voir à la radio, mais elle a eu la chance d'avoir une sœur qui a quelques talents et qui a illustré de ses dessins ce qu'elle nous racontait. C'est vrai qu'elle a choisi la médecine, c'est pas le sujet qui nous paraît le plus facilement drôle. Mmh. Et en plus, elle s'est attaquée au système digestif, donc là vraiment, on se dit oh là là, je vais pas lire un bouquin pareil. Eh bien, oui, elle arrive à nous faire sourire en nous parlant de nos tuyauteries. Et franchement, tout le monde pourrait lire, devrait lire même pour comprendre à la fois comment ça fonctionne. Il y a des choses magiques, enfin, quand on n'est pas scientifique, qui nous paraissent magiques. Et à quel point tout est lié dans notre corps. C'est-à-dire, quand je dis le corps, c'est le corps, l'esprit, les tripes, notre humeur. Et on entend maintenant, parce que c'est quand même peut-être un peu grâce à elle, plus à la mode de parler de ce genre d'organes, eh bien, on dit que c'est notre deuxième cerveau. C'est-à-dire qu'il y a, alors, il y a à la fois ça, et puis il y a un autre sujet qui est à la mode, ce sont les bactéries. Ben, si on n'avait pas nos petites bactéries, on serait mal. Donc, il y a quand même beaucoup de bactéries qu'il ne faut surtout pas tuer. Sinon, alors, pour d'autres raisons aussi, moi, j'ai tout de suite l'esprit un peu... Il n'y a pas que les bactéries de l'intestin, parce que dans les bactéries, dans le vin, dans le fromage, si vous enlevez les bactéries, on perd toutes ces bonnes choses.
Vive la bactérie.
Voilà, donc, je fais des digressions. Donc, elle rend ce sujet passionnant. Elle vulgarise un discours médical, mais sans vraiment nous prendre pour des idiots quand même. C'est-à-dire, mais voilà, la lecture est facile, c'est léger, c'est plein d'humour. Ça fait bien rire et ça fait réfléchir. Donc, on a tout. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous lire des petits extraits.
Oui, oui, oui.
Alors, j'attaque quasiment, enfin, presque au début. Alors, déjà, rien que le titre du chapitre, ouvrez la bouche et dites « Ah ». On pourrait être tenté de croire que si l'extrémité de notre intestin a encore des secrets pour nous, c'est parce que nous y sommes confrontés que rarement. Mais si vous voulez mon avis, la raison est ailleurs. La cavité buccale, ce vestibule qui s'ouvre sur notre tube digestif, a elle aussi de quoi nous surprendre. je passe. Les orifices des joues fournissent de la salive quand la situation s'y prête, par exemple au moment des repas. Les orifices cachés sous la langue, eux, travaillent en continu. Si l'on pouvait entrer par ces petits trous et nager à contre-courant dans le canal excréteur, on arriverait aux glandes salivaires en chef, qui produisent la majeure partie de la salive, à raison d'environ 0,7 à 1 litre par jour. Palpez votre cou en remontant vers la mâchoire et vous sentirez deux petites saillies molles, ce sont les chefs. Voilà un peu pour vous donner l'idée du ton du livre. Alors elle parle toujours de la salive pendant notre sommeil, parce qu'on se dit, voilà, il y a tout ça qui s'écoule, mais alors c'est terrible. Pendant notre sommeil, la sécrétion de salive est nettement ralentie, parce que si vous avez un litre quand vous dormez, vous imaginez, c'est les grandes eaux si la bouche s'entrouvre. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui dorment la bouche ouverte, car si nous produisions la nuit des quantités journalières habituelles, soit 1 litre à 1 litre 5 de salive, le résultat sur l'oreiller ne serait pas beau à voir le matin. Mais cette réduction nocturne de la salivation a aussi des effets moins agréables, donc il continue. Voilà pourquoi le brossage des dents au coucher et au lever est une invention ingénieuse. Le soir, on réduit le nombre de bactéries dans la bouche et la liste des invités à la super soirée microbienne s'en trouve limitée d'autant. Le matin, on fait le ménage et on élimine les restes de la fiesta nocturne. Par chance, nos glandes salivaires se réveillent en même temps que nous et lancent aussitôt la production. Au plus tard, avec la première tartine ou le brossage de dents, la salivation atteint son rythme de croisière et les microbes sont éliminés ou transportés vers l'estomac où le suc gastrique prend la relève. Donc franchement, vous voyez le ton. Et c'est à peu près, disons que vers la deuxième partie, c'est un peu plus ardu parce qu'elle s'attaque vraiment à la notion des bactéries, tout le travail. Mais on tient quand même, on y arrive. On y arrive. Hein.
Oui, en effet, ça semble assez ludique et accessible à tous. Quoi.
Voilà, alors des petites choses que j'avais relevées. Bon, déjà, on découvre que la salive, bon, vous, grand scientifique, vous le saviez, mais c'est du sang filtré. Tout le monde le sait.
Hein. Oui, bien sûr.
Maintenant bien que tu sûr. Le dis, oui.
Voilà.
Ça me revient.
Alors, elle va même juste à vous donner des conseils sur la façon de se placer aux toilettes pour que tout se passe bien. Ah, c'est très pratique.
Ah oui.
Très pratique. Et d'ailleurs, elle fait l'apologie des toilettes à la turque, qui ont été les toilettes les plus intelligentes inventées. L'émail des dents, bah, c'est le matériau le plus solide que le corps humain puisse produire. Alors, par exemple, ça c'est très trivial, on sécrète de la salive juste avant de vomir. Pourquoi ? Pour protéger cet émail des sucs gastriques. Pas abîmer les dents. C'est quand même bien fichu. Hein.
Ah non, mais il y a des bons conseils.
Voilà. Et rien que le microbiote intestinal, ce qu'on appelle la flore intestinale, ça peut peser jusqu'à 2 kilos. Voilà. C'est des petites choses qu'on découvre, ouais, mais c'est assez incroyable. Voilà. Et alors après, donc, c'est la deuxième partie où elle s'intéresse plus justement à cette flore, au travail des bactéries. Bon, cet organe extraordinaire donc, est secondé par d'immenses troupes de bactéries et d'enzymes, désintègre nos aliments pour qu'ils servent à notre sang, nos muscles, nos os. Il assure aussi l'équilibre hydrique et salin du corps, fabrique de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Il vient aussi de l'intestin, renvoie au cerveau des messages positifs ou négatifs, une activité tellement complexe et organisée qu'on a qualifié l'intestin de deuxième cerveau. Elle nous raconte le voyage. Alors, elle nous raconte vraiment, parce qu'il y a des passages un peu... Mais le voyage de la nourriture entre le moment où vous mettez l'aliment dans la bouche, depuis la bouche jusqu'à l'autre extrémité, on fait une visite détaillée du tube digestif, qui fait quand même 8 mètres de long, 200 millions de neurones...
On est habité. Hein.
Ah ouais, ça, on n'est pas tout seul. Hein,
on n'est pas tout seul.
Hein. Voilà, où les enzymes découpent nos repas en miettes comme de minuscules ciseaux, où les bactéries utiles transforment le bol alimentaire, où les échanges sont constants entre le cerveau d'en haut, celui contenu dans la boîte crânienne, et celui d'en bas, l'intestin, tenu jusqu'à présent comme négligeable. Nous savons que les bactéries sont de petits organismes unicellulaires. Assis confortablement devant la télé à regarder des surfeurs musclés prendre la vague, nous voilà surpris par un éternuement. Pas un instant, nous ne pensons alors aux figures spectaculaires que réalisent à cet instant d'autres surfeurs dans nos narines. Quand nous transpirons pendant un footing, nous ne remarquons rien non plus de la fête donnée dans nos baskets où les bactéries célèbrent dans la joie ce changement climatique. Et quand nous mangeons en cachette un minuscule bout du gâteau, persuadés que personne n'a rien vu, nous oublions les bactéries qui, dans notre ventre, sonnent l'alarme « gâteau !» pour rendre correctement compte des dernières nouvelles de notre planète microbienne. Chacun de nous devrait employer au moins une grande agence de presse internationale. Et quand il nous arrive de nous ennuyer, de penser qu'il ne se passe rien dans notre vie, il nous suffit d'y regarder d'un peu plus près. Sur nous et en nous, il se passe un tas de choses passionnantes. Petit à petit, nous prenons conscience du fait que la plupart des bactéries sont inoffensives et même utiles. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire donc « Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé » de Julia Anders. Ça a été publié chez Actes Sud et date de 2015 en France, 2014 en Allemagne. Voilà.
Écoute, très intéressant, voilà. Ouais, très instructif. Et puis, si on a l'esprit un peu cartoon, vraiment, on s'amuse beaucoup, je trouve.
Oui, mais non, mais on s'amuse. Hein. Je vous assure qu'on est là, à faire des voltiges dans le tube digestif. Il y a des trucs, par exemple, ça descend là, puis vous dites, ah ben ouais, l'estomac, il n'est pas juste en dessous. En fait, il arrive sur le côté, donc il a raté son coup. Mais c'est drôlement bien réfléchi, en fait, parce que la façon dont vous allongez, il faut mieux que le. Enfin, tout, elle explique D'accord. tout. C'est génial. Super.
Mais alors, les bactéries, en fait. Et autres organismes, on en a plus qu'énormément, puisque normalement, je crois qu'on a guère plus de 10 kilos de notre corps qui contient notre ADN. Tout le reste, c'est des corps étrangers.
C'est de la flotte ?
C'est de la flotte, mais c'est des bactéries, c'est des mitochondries, c'est tout ce qui n'est pas nous en tant qu'entité, mais qui fait qu'on vit.
C'est, voilà. c'est tous nos immigrés.
Voilà, c'est tous nos immigrés.
Sinon, on n'existerait pas. Bah voilà, c'est
Exactement.
Clair.
Formidable. Ouvrez les frontières.
Ah bah là, oui,
on les a ouvertes. Hein.
Justement.
Justement, voilà. Sans transition.
Le drame, il est là. C'est que ceux qui ferment les frontières dans leur corps en aseptisant tout, ils ne vivent pas. Quoi.
Bien sûr. On est un peu dans cette société-là, quand même. Ouais.
Ouais, on est moins pire que certains, si je peux me permettre.
Hygiéniste, quand même.
On a une tendance à vouloir leur ressembler.
C'est vrai, Voilà.
Bon. Allez, parlons de choses sérieuses et de littérature. Oui, un peu de. Après cette plaisanterie sérieuse.
On va continuer à parler de l'humain, si vous voulez.
On est toujours dedans.
Ouais. Hein, parce que, moi, je vais vous parler de la parole en Afrique. La parole, l'Afrique était une société sans écriture. Donc, la parole revêtait un aspect sacré. Donc, je vais vous parler d'un livre de Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, c'est un type qui est né au Mali, à Bandiagara, en 1900, bon, qui est mort beaucoup plus tard, en 1991, et c'était un écrivain ethnologue de l'Afrique. C'est à lui notamment qu'on doit la citation « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qu'on brûle ». Donc, je vais vous parler de La parole, mémoire vivante de l'Afrique, où il explique que toute la tradition, toute la connaissance, tout passe par le savoir de quelques personnes. Et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les griots. Les griots sont des amuseurs, des véritables pourvoyeurs en connaissance. C'est les gens qu'on appelle la doma.
Alors, est-ce que tu peux nous, juste pour les auditeurs, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord où on se situe donc, on est en Afrique centrale, on est où ?
Ampateba parle en particulier du Mali parce qu'il connaît le mieux, mais il précise que c'était en fait le cas général de l'Afrique, avec des particularités, mais toute l'Afrique était sans écriture. Donc, partout, la mémoire avait une importance capitale.
Ce qu'on appelle, c'est une tradition orale.
C'est la tradition orale.
Se passe
complètement.
Voilà, de cette manière-là.
Donc, les gens qui faisaient partie de la Doma, qu'on appelle aussi les traditionalistes, sont souvent des artisans. Donc, au niveau le plus haut et la connaissance la plus ésotérique, on a les forgerons qui travaillent le feu, qui sont près de la création. Voilà. Et ensuite, on a des gens qui connaissent la médecine, d'autres qui connaissent les qualités de la terre, d'autres qui savent, juste en regardant la végétation qu'il y a dans un lieu, savoir quel type de minerai il y a en dessous. Et ça, c'est des connaissances qu'ils avaient. Ils étaient capables, en regardant un lieu, de savoir ce qu'il y avait dans le sous-sol, en fonction de la végétation et des choses comme ça. Donc, c'est toutes sortes de traditions comme ça qui étaient des connaissances infinies. Et alors, les gens de la Doma étaient tenus à ne dire que la vérité. De toute façon, ils étaient toujours contrôlés entre eux, puisque quand on raconte quelque chose, d'autres gens ont la même connaissance, ou partiellement, ou voilà. Et à chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils disent « je tiens ce savoir de… » Donc, ils indiquent la personne qui leur a donné. Et ils disent qu'il le tenait lui-même d'eux et ils peuvent remonter à quelques générations comme ça. Donc, c'est une garantie de... Voilà. Et ces gens-là étaient capables, en entendant une seule fois un récit, de le conserver entièrement de A à Z sans changer un mot.
Incroyable.
Voilà. Donc, les gens de la Doma étaient vraiment les gens de la conservation de la mémoire.
Les doctes, les docteurs.
Les doctes, voilà. Et en contrepartie, il y avait les griots, qui eux aussi avaient une fonction dans la mémoire du peuple, mais c'était surtout la mémoire généalogique. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la généalogie de toutes les familles. Ils savaient dire à n'importe qui étaient ses parents, ses grands-parents, d'où ils venaient, sur 10 à 15 générations. Par contre, le griot, lui, bon, s'il ne mentait pas dans la généalogie, il pouvait se permettre de mentir, d'embellir les choses, puisque en fait, il était payé par les gens, les nobles, entre guillemets, pour garder la mémoire de la famille. Mais bon, évidemment, si l'ancêtre avait fait une saloperie, c'était pas trop la peine d'insister, quoi. Donc, c'était plutôt pour enjoliver, voilà.
Donc c'est des raconteurs d'histoire.
On a les mêmes chez nous.
Des raconteurs d'histoire, voilà. Alors si vous voulez bien, je vais vous lire deux petits passages. Alors,
un petit passage. Devant le micro.
Voilà, un sur les dépositaires de la mémoire et un sur les griots par la suite. Alors, les grands dépositaires de cet héritage oral sont ceux qu'on appelle les traditionalistes. Mémoire vivante de l'Afrique, ils en sont les meilleurs témoins. Qui sont ces maîtres? En Bambara, on les appelle Doma ou Soma, les connaisseurs, faiseurs de connaissances. En Peul, selon les régions, on les appelle Silatigi, Gwando, mots comportant le même sens que connaisseurs. Ils peuvent être maîtres initiés et initiateurs d'une branche traditionnelle particulière, initiation du forgeron, du tisserand, du chasseur, du pêcheur, etc. Ou bien posséder la connaissance totale de la tradition dans tous ses aspects. Il existe ainsi des domas qui connaissent la science des forgerons, celle des pasteurs, des tisserands, aussi bien que des grandes écoles initiatiques de la savane, telles que par exemple au Mali, les Niavo-Rolais. Bon, là pour la prononciation. Mais ne nous y trompons pas, la tradition africaine ne coupe pas la vie en tranches et le connaisseur est rarement un spécialiste. Le plus souvent, c'est un généraliste. Le même vieillard, par exemple, aura des connaissances aussi bien en science des plantes, connaissance des propriétés bonnes ou mauvaises de chaque plante, qu'en science des terres, propriétés agricoles et médicinales des différentes sortes de terres, en science des eaux, en astronomie, en psychologie, etc. Il s'agit d'une science de la vie dont les connaissances peuvent toujours donner lieu à des utilisations pratiques. Conservateurs des secrets de la jeunesse cosmique et des sciences de la vie, les traditionalistes, doués en général d'une mémoire prodigieuse et souvent aussi archivistes des événements passés transmis par la tradition des événements contemporains. Une mémoire qui se voudrait essentiellement africaine devra donc nécessairement s'appuyer sur l'irremplaçable témoignage des Africains qualifiés. On ne coiffe pas une personne en son absence, dit l'adage. Alors ces gens-là, Empateba donne un exemple d'un de ces domas qui, à un moment de sa vie, a été obligé de cacher une femme africaine parce qu'elle risquait d'être assassinée. Pour la protéger, il a été obligé de mentir, de dire qu'il ne l'avait pas vue. Et dès qu'il a fait ce mensonge, il a quitté sa fonction en Doma parce que c'est une parole absolument sacrée. On ne peut pas mentir. Et même si on ment pour autre chose que pour sa fonction, on quitte.
Peu importe la raison.
Ouais. Peu importe la raison.
Le principe, c'est ça. Quoi.
La parole est absolument sacrée. Elle est d'une sacralité.
Et quand tu dis qu'il a quitté
totale.
Sa Donc, fonction, oui. Il l'a quitté volontairement
Oui, volontairement.
Il a été,
non, volontairement.
Donc tout le monde savait qu'il avait menti, alors.
Bah après, voilà. Mais bon.
Parce qu'on ne le dit pas.
Mais voilà. La puissance...
Donc elle était en danger.
Voilà. Quel esprit retors.
Ah ben non, mais je réfléchis.
Oui, mais après, elle a pu s'éloigner.
D'accord. Il ne l'a pas fait tout de suite.
Voilà. Donc voilà, il faut bien prendre conscience de la sacralité de la parole. Ouais. C'est quelque chose d'absolu qui a une puissance. On peut mettre le feu par des paroles. Voilà. Donc il faut...
Ça nous paraît vraiment exotique pour nous. Hein.
Voilà, exactement.
Cette sacralité de la parole ici.
Alors maintenant, on va parler des griots qui, eux, ont d'autres fonctions. Alors, si les sciences occultes et ésotériques sont l'apanage des maîtres du couteau et des chantres des dieux, la musique, la poésie lyrique, les contes qui animent les récréations populaires et souvent aussi l'histoire reviennent aux griots, sorte de troubadours ou de ménestrels parcourant le pays et ou attachés à une famille. On a souvent pensé à tort qu'ils étaient les seuls traditionalistes possibles. Qui sont-ils ? On peut les diviser en trois catégories, les griots musiciens, les griots ambassadeurs et artisans, les griots généralistes, historiens ou poètes, ou les trois à la fois, qui sont aussi généralement conteurs et grands voyageurs. La tradition leur confère un statut particulier au sein de la société. En effet, contrairement aux hurons nobles, ils ont le droit d'être sans vergogne et jouissent d'une très grande liberté de parole. Ils peuvent se montrer sans gêne, voire effrontés. Et il leur arrive de plaisanter avec les choses les plus sérieuses ou les plus sacrées sans que cela tire à conséquence. Ils ne sont astreints ni à la discrétion ni au respect absolu de la vérité. Ils peuvent parfois mentir avec aplomb et nul n'est fondé à leur en tenir rigueur. C'est le dire du dieli. Ce n'est donc pas la vérité vraie, mais nous l'acceptons ainsi. Cette maxime montre assez combien la tradition admet, sans en être dupe, les affabulations des dieli qui, ajoute-t-elle, ont la bouche déchirée. Voilà.
Oui, c'est la grande liberté, là, quand même.
Voilà, on voit le...
C'est pas la même chose.
Les deux aspects de la parole africaine.
Ouais, c'est intéressant parce que ça se complète finalement.
Mais bien sûr, ça se complète. On ne peut pas être toujours dans le sérieux absolu. Voilà. Il faut. Ouais.
Voilà. Donc, ça contrebalance.
Il y a la mémoire et il y a les amuseurs.
Et tu sais si cette tradition perdure encore aujourd'hui ou si c'est plutôt en voie de
disparition ?
Non,
malheureusement.
Il y a encore des griots.
Oui, il y a toujours des griots.
Il y a toujours des griots,
parce que ça, il y en aura toujours,
voilà.
Puisque ce sont des amuseurs. Mm. Par contre, les domas, c'est en perdition maintenant. Ouais. Et surtout que la première chose qu'ont fait les colons en Afrique, c'est d'essayer de supprimer tous les domas, évidemment, pour pouvoir.
C'est gênant, quoi.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Tu peux nous rappeler le.
Alors,
le
c'est
titre, s'il te plaît.
La parole, Mémoire vivante de l'Afrique, par Amadou Mpateba.
Qui est paru, on le trouve en poche ou en...
Oh oui, on peut, c'est vraiment un tout petit texte. Moi, je l'ai en édition Fata Morgana, mais il doit être paru dans des livres d'Ampateba, mais pas tout seul, parce que là, il n'y a qu'une trentaine de pages.
D'accord. Merci François. Je me retourne vers toi, Catherine. Tu vas nous parler d'un... Oh là là, alors là...
J'ai un grand écart,
là,
ça s'appelle.
Là, oui, un grand écart et un grand écart aussi au niveau taille, parce que là, il y a deux gros volumes.
Ah, dis pas tout.
Non, n'ayez pas peur. Hein, c'est...
Je ne suis pas Doma, mais je vais quand même dire la vérité.
Oui,
il y a peut-être deux gros volumes, mais je ne pourrais parler que d'un, car j'en ai lu qu'un.
Oui.
Voilà,
oui.
Je commence fort. Maintenant, je vais faire griot.
On ne sait pas si on va te croire.
Ah bah, tant pis pour vous. De toute façon, c'est ça le bonheur de la littérature. Oui, alors je continue. Je suis toujours dans la présentation d'essais.
Oui. Hein, pour,
non-fiction, comme disent nos amis américains.
Non-fiction. Ah, je ne connaissais pas ça.
Fiction, non-fiction.
Non-fiction, d'accord.
Voilà. Alors là, je suis... En fin de compte, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Donc, c'est un livre qui est sorti en 2015 et qui, en fait, a eu tout de suite un très grand succès. C'est vrai que quand on voit le livre, c'est-à-dire un gros livre, et qu'en plus, il y en a un deuxième tome, on se dit, mais comment ça se fait qu'il ait eu du succès ? Alors, tout à l'heure, on a parlé... on était avec notre microscope à l'intérieur du corps. Et là, c'est vraiment une... C'est en toute simplicité une petite histoire complète de l'humanité, si on peut dire. Donc là, on part, c'est une vue d'ensemble de toute l'histoire de l'humanité, de son évolution, depuis les premiers hommes de l'âge de pierre jusqu'au 21e siècle.
Ah oui,
et 21e siècle inclus principalement dans son deuxième tome, mais même dans le premier. C'est-à-dire que c'est un historien qui a écrit cet ouvrage. C'est plus qu'une histoire, parce qu'il y en a déjà eu des livres de ce type. C'est vraiment avec une réflexion philosophique également. Donc c'est à la fois scientifique, historique, philosophique, et c'est un point de vue qui se veut partial, puisque c'est qui est subjectif, je voulais dire. Il a une théorie sur cette évolution de l'homme, sur la façon, puisqu'il va plus loin. Il raconte ce qui s'est passé jusqu'à. Et il nous parle de ce qui va se passer. Hein, sur l'évolution de l'homme. Donc, c'est d'accord. Son point de vue. Oui. Il n'a pas encore lu tous les textes sur la fin du 21e, donc il fait un peu le griot, là, peut-être. Voilà. Mais disons que... Alors, peut-être, c'est toujours pareil. Je ne suis pas une scientifique, je suis une pauvre petite littéraire. Donc, même s'il y a toute une démarche scientifique au début... Peut-être que le vrai scientifique va dire qu'il y a des imprécisions, des choses. Je suis moins sensible à ça.
C'est ton avis qui nous intéresse aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Mais disons que j'arrive à le lire. C'est un bon signe.
Bravo.
Voilà. Donc, l'argument de l'auteur, en fait, donc c'est cette étude. Alors, ça s'appelle Sapiens. Hein, c'est l'Homo sapiens. Pourquoi l'Homo sapiens doit son statut d'espèce dominante? Alors, pourquoi il est devenu l'espèce dominante? Alors, au milieu de tous les animaux et aussi au milieu des humains-animaux qu'il y avait autour. Parce qu'il n'y avait pas que le sapiens, il y en a eu d'autres en même temps. Parce que nous, on nous présente toujours une chaîne qui suit. En fait, il y a plusieurs types d'hommes en même temps et il n'y en a qu'un qui est resté. Donc, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Alors, c'est vrai que l'homme... Alors, sapiens, c'est l'homme sage, c'est-à-dire celui qui sait. Qu'est-ce qu'il savait de plus? Déjà, il a su dominer le feu. Donc, ça, c'était quand même une belle étape. Parce que ça change, on revient à notre intestin, ça change complètement l'alimentation. Ah mais tout est lié, c'est
oui,
beau la
tout
vie.
Est lié. Ouais.
Après, il y a eu l'usage des outils, donc ça change aussi complètement la relation au monde extérieur, la façon de vivre, de chasser, parce qu'il faut bien chasser, peut-être aussi après de cultiver. Hein, ça, voilà. Et le troisième point auquel on ne pense pas tout de suite, c'est la notion de fiction. En fait, la force du sapiens, c'est l'idée qu'il était capable d'inventer des histoires. On peut dire, ah ben c'est le griot qui invente. Non, là, il veut parler de tout, c'est-à-dire Dieu. C'est une histoire qu'on nous raconte. La patrie, c'est une histoire qu'on nous raconte. Toutes ces choses-là, en fait, toute sa théorie, c'est ça n'existe pas. On vous dit que ça existe, c'est tout. Mais voilà, ce sont des notions que l'homme invente pour fédérer les hommes. Alors, toute son argumentation, c'est de dire que le sapiens... Par rapport aux autres animaux, il a la faculté de croire en des choses qui n'existent que dans son imagination. Alors Dieu, nation, l'argent. L'argent, ça n'existe pas. Et pourtant, tout le monde a l'air d'y croire. On est prêt à taper sur le voisin pour lui piquer son argent. Les droits de l'homme, ça n'existe pas. Tout ça, c'est de l'invention. Et sa thèse, c'est donc tous ces systèmes. La force du sapiens, c'est qu'il a réussi avec ces systèmes de faire coopérer des humains à grande échelle. Parce que vous prenez des familles de singes ou autres, bien sûr qu'il y a un langage. Parce qu'ils savent parler, ils savent organiser un groupe. Il y a un moment où le groupe étant trop grand, ils n'y arrivent plus. Donc, où le groupe va se scinder en deux, etc. La force de ce sapiens, c'est d'avoir réussi à raconter des histoires qui arrivent à motiver des millions de gens qui vont se faire massacrer en 14, etc. etc. Donc, c'est là qu'il voit la force de ces sapiens. Alors, des fois, ça peut être pour des bonnes choses, mais bon... Voilà. Alors, les religions, les structures politiques, les réseaux de travail. Pourquoi on va tous les jours au boulot? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait y aller. C'est pas écrit quelque part.
C'est écrit nulle part.
Ben voilà. Ça y est, tu vas commencer à comprendre. Nous, c'est trop tard, on a arrêté. Les institutions légales, tout ça, c'est ce qu'on a peint. Dans sa bouche, c'est la fiction. C'est de la fiction. Alors j'aime bien parce que je parlais de non-fiction, mais c'est de la fiction.
Excuse-moi pour qu'on essaye d'être bien clair. Si je suis bien son raisonnement, ça veut dire que pense que les humains, la capacité de rassemblement des humains s'est fédérée autour d'une notion abstraite qu'est... que sont toutes les histoires qui ne sont pas, scientifiquement prouvées. Aujourd'hui, on dirait scientifiquement
entre l'objectivité et la subjectivité. Voilà.
D'accord. Okay.
Voilà. Alors, par exemple, les autres sujets qui traitent dans ce livre, c'est la notion de monnaie, qui est présentée comme un système de confiance mutuelle. Mm-hmm. Je veux dire, vous y croyez, bout de papier qui coûte 50 euros. On vous l'a dit, vous y croyez. et c'est quand même extraordinaire. On est un système de confiance, quoi qu'on pense. Le capitalisme. C'est une vraie religion aujourd'hui. Hein. C'est plus une religion qu'une théorie économique. On va dire, sinon, le système s'écroule. L'Empire, enfin, tous les régimes politiques comme ça qui peuvent entraîner les gens. Il décrit donc les... Alors, par exemple, le traitement réservé aux animaux par l'agriculture moderne, enfin, l'agriculture intensive, il le décrit comme l'un des plus grands crimes de l'histoire. Alors après, il y a toute sa théorie qui dit que le progrès n'a pas forcément rendu les hommes plus heureux. qu'avant. Les humains sont... Et il arrive à cette charnière, alors c'est le deuxième tome, mais là, il arrive à cette charnière où les humains sont en passe d'évoluer pour devenir des dieux. C'est-à-dire qu'ils mènent la danse. Ils peuvent mener la danse, mais jusqu'à la mort. C'est à eux de voir comment ils vont... pour lui, cet homme, cet animal, il l'a inventé, alors, en bon français, le storytelling. Là. Et après, dans les scénarios futurs, c'est quoi ? C'est soit l'autodestruction, il va s'autodétruire. Hein. On a toute la science-fiction qui nous parle de ça. Soit l'avènement d'une sorte d'élite augmentée, ce qu'on sent aussi dans la science-fiction ou dans l'anticipation. Hein. Donc, voilà. Et bien, en plus, cet homme qui a écrit ça, parce qu'on se dit... Voilà, il a vécu et tout. Maintenant, il a 39 ans.
Voilà. Un genou.
Donc, c'est un gamin. C'est fou. Hein. Alors, je vais quand même vous lire des passages pour voir un peu le... Alors, début, ça commence tout simple. Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace apparaissaient à l'occasion du Big Bang. L'histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu'on appelle la physique. Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l'énergie commencèrent à se fondre en structures complexes appelées atomes, lesquelles se combinèrent ensuite en molécules. L'histoire des atomes, des molécules et de leur interaction est ce qu'on appelle la chimie. Voici près de 3,8 milliards d'années, sur la planète Terre, certaines molécules s'associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées, les organismes. L'histoire des organismes est ce qu'on appelle la biologie. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. Trois révolutions importantes infléchirent le cours de l'histoire. La révolution cognitive donna le coup d'envoi à l'histoire voici quelque 70 000 ans. La révolution agricole accéléra voici environ 12 000 ans. Et la révolution scientifique engagée voici seulement 500 ans pourrait bien mettre fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. Ce livre raconte comment ces trois révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. C'est clair ?
Oui, tout à fait.
Comprendre l'histoire humaine dans les millénaires qui suivirent la révolution agricole revient à répondre à une seule question. Comment les hommes se sont-ils organisés en réseaux de coopération de masse alors que leur manquaient les instincts biologiques nécessaires pour entretenir de tels réseaux ? La réponse courte est qu'ils créent des ordres imaginaires et inventèrent des écritures. Ces deux inventions comblèrent les vides laissés par notre héritage biologique. Déjà, vous voyez le ton, l'écriture, qui est... assez facile. Hein,
c'est, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Est-ce qu'il oppose la nature de l'humain à la nature de l'animal dans ses...
En fait, il dit, alors je n'ai pas lu les mêmes, parce que j'avais choisi plein de passages, mais il dit qu'il faut arrêter d'être prétentieux. On est les cousins des singes. Okay. Lui, c'est sa vision.
D'accord.
Et à un moment, on a eu une grand-mère qui a eu deux filles, et puis il y en a une qui a été notre grand-mère plus humaine, et l'autre, mais les autres ont continué. C'est vraiment dans cet esprit. Sur le deuxième tome, donc, que je n'ai pas lu, je l'ai juste... Parce que là, il est plus récent, il a dû sortir... je me demande si c'est pas, il n'est pas sorti pour Noël. Oui, 2017. Voilà, 2017, celui-ci. Donc là, il s'attaque vraiment à ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir. C'est-à-dire que... Parce que dans ces histoires de mythes, il met Google, Facebook, tous ces imaginaires, tous ces systèmes qui enfin, veut dire, là, il nous mène par le bout du nez d'une façon extraordinaire. Donc, il s'intéresse vraiment à notre monde actuel, à la façon dont il évolue, plutôt très vite même, et comment on va digérer cette évolution, comment l'homme va-t-il ou peut-il s'en sortir avec
Donc,
une telle évolution.
Dans le deuxième tome, c'est un scénario qu'il imagine pour le devenir de l'humain, de l'être humain.
Voilà, mais toujours sous la projection de tout ce qu'il a étudié en amont. Hein. Il y a une véritable... Voilà. Donc voilà, Homo Deus, je peux vous lire les quelques lignes, là, nous dévoile ce que sera le monde de demain lorsque, à nos mythes collectifs tels que les dieux, l'argent, l'égalité, la liberté, s'allieront de nouvelles technologies démiurgiques et que les algorithmes de plus en plus intelligents pourront se passer de notre pouvoir de décision, puisque là, pour le moment, l'homme a l'air d'encore décider quelques petites choses. Et encore, car tandis que l'Homo sapiens devient un Homo Deus, nous nous forgeons un nouveau destin. Voilà. Donc c'est pour ça que les deux tomes, le premier s'appelle Sapiens, sous-titre Une brève histoire de l'humanité, alors que le deuxième s'appelle Homo Deus, Une brève histoire de l'avenir. Alors le brève, je ne sais pas comment vous l'analysez. Alors ces deux volumes. Alors l'auteur s'appelle Yuval Noah Harari. c'est exactement la même écriture que l'architecte de la bibliothèque Abbé Grégoire, Harari. Ah oui. Et l'éditeur, c'est Albin Michel.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup.
Alors là, on en prend pour plus de temps. Ah oui. Mais on peut lire qu'un tome. Mais il faut quand même lire Sapiens, parce que c'est toute l'histoire. Après, si on a peur de savoir ce qui va se passer demain, on se passe du deuxième. C'est une question de courage. Après.
Et de temps.
Et un peu de temps aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Catherine. François, le deuxième choix.
Alors c'est... Là, on va revenir vers de la littérature. Mais en fait, une littérature très, très humaniste. On va rester dans l'humain, donc avec Jean-Claude Izou. Et on va parler de Le soleil des mourons. Alors Jean-Claude Izou, c'est un auteur qui est né à Marseille en 1945, qui est mort jeune en 2000, à 55 ans. Il a commencé sa vie en étant rédacteur en chef d'un quotidien communiste, la Marseillaise, justement à Marseille. Bon, et il a commencé par écrire beaucoup de poésie. Il a écrit une dizaine de recueils de poésie. Et ensuite, on le connaît... surtout pour sa trilogie marseillaise. Total Kéops, Chourmeau, Soléa.
Formidable.
Formidable, hein, avec Fabio Montal comme enquêteur, où il parle beaucoup de poésie, de jazz. Ensuite, il a écrit, suite à ça, Le soleil des mourons, qui est son dernier livre, malheureusement, pour nous. Mais... Alors, Le soleil des mourons, c'est l'histoire de gens qui sont à la rue. C'est l'histoire notamment de Rico. Rico qui est un homme qui a commencé sa vie comme représentant de commerce, qui avait une vie normale, sans soucis, bourgeoise. Et puis Rico, à un moment, il divorce. Il divorce et ça l'emmène vers une déconsidération de soi, vers un malaise. Et petit à petit, il se retrouve à la rue. Là où Izou est très humain, justement, c'est... Bon, on voit cette descente à la rue. Il n'incrimine pas la faute de la compagne parce qu'il a bien pris soin avant que son personnage principal quitte une femme. Avant. Pour bien montrer que c'est pas la femme, pas la femme qui génère le problème, c'est un problème qui vient de lui-même intérieurement. Malheur. Donc Rico se retrouve à la rue. Bon, il est longtemps à Paris avec son ami Titi qui le réconforte, qui l'aide à vivre. Et Titi, un jour de froid d'hiver où il fait moins 10, comme aujourd'hui, il s'endort et puis il se réveille pas. Voilà, donc ça nous relie aussi à ce qu'on vit
exactement,
en ce moment.
Pas plus tard qu'hier,
Encore une fois. Voilà, et bon, après la mort de Titi, Rico, il avait fait ses études à Marseille, il avait passé du temps à Marseille, il s'est dit, quitte à vivre dans la misère, autant être au chaud. Un peu de soleil.
Comme
donc
dans
il,
la chanson.
Il descend vers le midi et il est accompagné au début de sa descente par un certain Dédé qui est aussi à la rue mais qui lui est son mauvais génie, disons. Celui qui l'entraîne à dépouiller. De vieilles personnes qui viennent retirer de l'argent dans une banque.
Le gars pas fréquentable.
Voilà. Qui l'emmène, qui le fait boire, qui l'emmène chez une amie au passage. Et bon, ça se passe pas bien, et ainsi de suite. Bon, ce qui fait que Rico continue son voyage seul. Il va à Marseille où il rencontre Abdou. Abdou, c'est un jeune immigré qui vient d'Afrique du Nord. Et voilà, il le prend sous son aile. Et en fait, tout le récit est raconté par Abdou, qui raconte tout ce que Rico lui avait dit, raconté avant. Voilà. Puis à un moment, Dédé revient, passe à Marseille, vient lui dire bonjour. Et, et il lui sort un article de journal qui annonce la mort de sa femme, Hariko. Elle a été assassinée. Et elle a été assassinée par quelqu'un qui semble être quelqu'un de la rue et tout ça. Et il comprend que c'est Dédé qui l'a assassinée. Voilà.
Ah, ouais.
Et là, eh bien, il rentre dans une phase de malheur total parce qu'en fait, cette femme qu'il avait beaucoup aimée, qu'il a pas vraiment haï, qui lui a fait beaucoup de mal, mais en fait, il l'aimait toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tombé dans une telle catastrophe. Donc là, c'est quelque part, ça met un peu terme à sa vie. Il fait comme Titi, il va s'éteindre gentiment, tout seul. Voilà.
C'est une descente un peu aux enfers.
Une descente aux enfers, voilà. Donc voilà pour la trame. Et ben, je vais vous en lire un petit morceau.
Ouais.
Pour,
ah bah oui.
Juste parce que, pour voir que c'est une écriture très humaine, très poétique. C'est... Comme souvent, quand il faisait des efforts pour se souvenir, Rico s'épuisait. Il a joint ses mains devant lui comme pour prier. Elle aimait la mer. Cette mer, elle me l'a fait aimer. Oui, je crois en liant nos désirs à elle. Elle disait qu'elle était comme un rêve. C'est ça. Que cette mer est comme un rêve qu'on doit regarder les yeux ouverts, un rêve dont on ne se réveille pas. Tu comprends ça ? J'ai hoché la tête. Je ne comprenais pas vraiment si je sentais ce que cela voulait dire. Et ça me convenait. On peut se tromper, a dit laconiquement Rico en allumant une clope. Tu m'expliques là ? J'ai pas suivi. Bof. Il a tiré férocement sur sa clope, puis il a sorti le bouquin de sa poche. L'Odyssée. Ce livre, il m'avait dit, lui rappelait Léa. Depuis quelque temps, je lui en faisais la lecture. Rico n'arrivait plus à se concentrer sur les mots, les phrases. Moi, ça ne me déplaisait pas. Et puis, c'était une belle histoire. Tiens, lis. Au début, Rico s'était énervé parce que je posais plein de questions chaque fois que je tombais sur un nom que je ne connaissais pas. C'est quoi une nymphe ? J'ai demandé. « Putain, Abdou, tu vas pas m'arrêter, t'arrêter sur tous les mots. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que c'est qu'une nymphe ? Elle s'appelle Calypso, d'abord. Et c'est une nymphe, d'accord. L'important, c'est l'histoire, merde. Et la petite musique de l'histoire. Si chaque fois, il faut savoir comprendre tout ça, on va se faire chier. D'accord. Allez, on reprend au début. » Il ne restait que lui à toujours désirer le retour de sa femme, car une nymphe auguste le retenait captif au creux de ses cavernes. Calypso, qui brûlait, cette toute divine de l'avoir pour époux. Voilà.
C'est vrai que Jean-Claude Guizot, c'est, quoi qu'il dise, la manière dont il le dit, c'est toujours, effectivement, comme tu dis, très, très humain, très chaleureux. Très, les personnages sont toujours attachants. Enfin, c'est vraiment voilà. L'auteur
formidable. Et puis, faut-il toujours comprendre ?
Bah, exactement. Bah, surtout, effectivement, c'est une grande leçon aussi. Hein.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Donc, encore une fois, c'était super. Enfin, bon, j'espère que ça donne envie, une fois de plus, aux auditrices et auditeurs de se précipiter à la bibliothèque
ou dans les librairies.
Ou dans les librairies, hein, de leur choix. Et merci à vous deux. Je remettrai de toute façon les titres des livres sur le site. Vous pourrez podcaster cette émission sur studiozef.fr et je vous dis au mois prochain. Merci à tous et à très bientôt.
Salut. Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.